Voilà, mais écoutez, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous célébrons Pâques. Je pense que c'est pas nouveau pour vous de le savoir. Et aujourd'hui, imaginez, j'aimerais me focaliser sur la résurrection. C'est quand même incroyable, vous trouvez pas? Je pense que c'est tout à fait naturel. Et le titre de mon message, on va regarder en fait le récit d'un personnage. Mon titre, c'est « Thomas, le douteur convaincu ». Thomas, le douteur convaincu. Alors c'est vrai que lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ, nous décrivons, nous évoquons un fait historique que la Bible évoque comme un fait historique, comme quoi Jésus, en l'année où il fut crucifié, il y a un peu plus de 2000 ans, ce jour-là, il a été crucifié, embaumé, enterré dans un tombeau parce qu'il était mort, un tombeau qui a été scellé et gardé par 16 soldats romains armés jusqu'aux dents. Et la Bible affirme que le troisième jour, donc le dimanche d'après, le fameux dimanche matin, il y a eu un tremblement de terre et la résurrection de Jésus-Christ. L'âme de Jésus qui avait quitté son corps au moment de sa mort revint dans son corps et lui redonna vie. Jésus se leva, traversa le mur de son tombeau pour en sortir. La Bible affirme, c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 15, que plus de 500 personnes l'ont vu. Verset 3 d'1 Corinthiens 15 nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. » Donc c'est un fait historique que la Bible évoque. La garde romaine s'est évanouie de peur, un ange est apparu, l'ange a roulé la pierre, pas pour que Jésus sorte, parce qu'il a traversé, ça on le verra dans quelques minutes, mais pour permettre aux femmes qui sont venues ce matin-là de voir à l'intérieur du tombeau et constater qu'il était vide. Et bien ressuscité. Voilà, en deux mots, la doctrine de la résurrection. Alors, il faut savoir que la résurrection est la doctrine, est le fait historique le plus important pour le christianisme. Alors, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont liées. Et donc, les deux sont, bien sûr, on ne peut pas vraiment séparer l'un de l'autre dans son importance quelque part, mais on peut dire que sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait tout simplement pas de christianisme. La résurrection de Jésus prouve qu'il y a une vie ou la vie après la mort. Et j'ai oublié de le dire, si quelqu'un a besoin d'une traduction anglaise, mon fils traduit. Si vous entendez une voix, c'est lui. Si vous avez besoin, vous levez la main, d'accord? D'accord, merci. La résurrection de Jésus prouve qu'il y a la vie après la mort et que c'est Christ qui en détient les clés. Jésus, par exemple, dans Jean 11, a évoqué quelque chose d'incroyable. Au verset 26, il dit, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est quand même pas rien de dire ça. « Je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, après la mort, tu vivras. Si tu crois pas en moi, tu vivras pas. Ben, » ou c'est vrai ou c'est faux. Alors la Bible, là je crois que vous êtes convaincus, affirme que c'est vrai. Ceci dit, il faut savoir que beaucoup de personnes dans l'histoire ont douté de la véracité de la résurrection. Beaucoup de personnes encore aujourd'hui doutent la possibilité que la résurrection ait vraiment lieu. C'est intéressant, en entrant ici ce matin, quelqu'un Anne-Marie m'a donné un article qu'elle a trouvé dans un journal hier, j'ai trouvé absolument époustouflant, je vous le lis. J'ai reçu ça il y a quelques minutes, d'accord ? Pasteur athée est autorisé à prêcher et il attire les foules. J'ai dû le lire trois fois, d'accord ? Un pasteur athée attire les foules par ses prédications, je vous lis. Pays-Bas. Rencontre avec Klaus Hendricks, excusez mon accent, qui parle de sa manière de croire. Depuis la nuit des temps, les hommes débattent de l'existence de Dieu. Aux Pays-Bas, Klaus Hendricks se déclare pasteur athée. Là, il faut le faire. Hein. Pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, comment croire à un Dieu qui n'existe pas ? Malgré ses convictions affichées dans un livre à succès depuis 2007, Klaus Hendricks reste ministre de l'Église protestante des Pays-Bas. Son église, PKN, a accepté début février qu'il reste à la tête des paroisses qui lui étaient confiées jusqu'à sa retraite. De plus, la PKN, qui compte plusieurs millions de fidèles, a promis de lancer un débat sur la question de la nature de Dieu. Fait notoire, l'église de Klaus Hendricks ne désemplit pas. Par quart entier, on vient de toutes les provinces pour l'écouter prêcher. Dans ses interventions, le pasteur essaie toujours de mettre un lien entre le texte des évangiles avec la vie concrète de ses paroissiens. Demain, dimanche de Pâques, il leur expliquera d'abord d'où vient le mythe de la résurrection. Il dira ensuite que Jésus est mort, qu'il a été enterré et qu'il n'est jamais sorti de la tombe. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que lui décide que la résurrection n'est pas vraie. Ah, mais la mort et l'enterrement, oui. Donc, il a décidé lui-même ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai dans le récit. Pour vous montrer que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, doutent de la véracité de ce fait historique qui est la résurrection. En fait, il faut dire que dans l'histoire, les gens ont douté de beaucoup d'autres choses qu'on leur avait dit. Par exemple, les premiers médecins du Moyen-Âge ont eu de la peine à croire que des créatures invisibles à l'œil pouvaient être responsables pour les infections et les maladies. En 1872, Pierre Pacheur, professeur de physiologie à Toulouse, a dit, et je le cite, « La théorie des bactéries de Louis Pasteur est de la fiction ridicule. » Ben, aujourd'hui, on appelle ces bactéries des virus. En 1943, Tom Watson, le PDG de IBM, a dit, je cite, « Je pense qu'il y a un marché potentiel dans le monde pour environ 5 ordinateurs au plus. » Les exemples de fausses prédictions dans le monde abondent. Quelqu'un aurait dit aux Beatles, je ne sais pas si quelqu'un est assez vieux pour se rappeler des Beatles, d'accord ? On leur a dit que la musique de guitare allait tout simplement disparaître. Ben là, ils se sont plutôt trompés sur cette prédiction. Un professeur à l'université de Yale aux USA aurait dit à un certain Fred Smith que le concept de courrier livré le lendemain était une impossibilité. Mais FedEx et d'autres sociétés ont connu le jour quand même. On aurait même aussi dit à Alexander Bell que le téléphone qu'il a inventé était tout simplement une impossibilité. Alors, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des douteurs. Toujours eu des douteurs. Telle en est la vérité avec la résurrection. Et c'est intéressant. Il y a toujours eu des douteurs et même au tout début, vous connaissez dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Paul a dû écrire ces mots juste quelques temps après la résurrection. 1 Corinthiens 15, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Il y avait déjà des gens qui disaient, « Non, c'est faux, à l'époque. » S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, vous voyez, il y a des gens déjà à l'époque qui doutaient de la résurrection. Mais s'il n'y a pas eu de résurrection, mais écoutez, mes amis, pourquoi est-ce qu'on est là ce matin? On est fou de célébrer quelque chose qui, en fait, n'a pas existé. Et en plus, la Bible dit qu'il va revenir. Ben, s'il n'est pas ressuscité, il n'est pas vivant et donc il ne peut pas revenir. Alors, j'aimerais maintenant me focaliser un petit peu sur le douteur le plus célèbre de tous les temps. Qui est le douteur de la résurrection le plus célèbre de tous les temps? Eh bien, je pense que le prix reviendrait à qui? Thomas. Thomas, c'est intéressant, cette semaine, je distribuais les invitations que nous avons faites pour aujourd'hui. Et des personnes qui ne sont pas chrétiennes, que je sache, des personnes qui ne sont pas trop intéressées par l'évangile, ont regardé cette image et tout de suite ont dit « Ah tiens, c'est Thomas ». C'est intéressant que dans notre culture, même ceux qui ne sont pas croyants connaissent l'histoire de Thomas et connaissent le fait que Thomas est probablement le douteur le plus connu de toute l'histoire. Et ce que j'aimerais essayer de faire ce matin, c'est de vous montrer le récit de la résurrection de Jésus-Christ par son regard, par le biais de son regard. Et en même temps, j'aimerais essayer de vous montrer ce matin que je pense que de l'appeler le douteur ou un douteur, alors c'est vrai, mais c'est pas 100% vrai. Et vous allez le voir dans quelques minutes. Oui, Thomas a bien douté, je suis d'accord avec ça. Mais était-il un douteur au sens propre du terme? Et nous allons voir que son doute, et je pense que si on avait été lui, on aurait peut-être douté un peu comme lui, son doute venait d'un amour profond pour son Seigneur, et il ne voulait absolument pas être séparé de lui. Et donc, mon approche ce matin va vraiment être simple. J'aimerais tout simplement parcourir la vie de cet homme, tout simplement peindre son portrait et tenter de comprendre pourquoi il a douté et quelle fut la nature de son doute, et surtout comment son doute fut éliminé et comment cela s'applique à nous aujourd'hui. Donc, je propose son portrait en 10 étapes, toute simple. On va, comme un puzzle, le mettre ensemble et essayer de voir qui est ce personnage, d'accord? Donc, on va regarder sa vie en 10 étapes. 10 étapes très brèves, d'accord? Alors, première étape. Commençons par son nom significatif. Son nom significatif. Alors, on découvre Thomas dans Matthieu chapitre 10, au verset 1, où là nous avons Jésus qui appelle ses disciples. Il est dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres, le premier Simon, appelé Pierre, ensuite André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Donc c'est le 7e disciple dans la liste des disciples. Et Thomas veut dire jumeau, qui implique qu'il avait peut-être un frère ou une sœur jumelle. Et dans Jean 11, 16, il est appelé Thomas, appelé Didyme. Et Didyme est tout simplement la version grecque du nom Thomas. Alors vous dites, il n'y a aucun lien, ben c'est un peu comme Étienne en anglais, c'est Stephen, il n'y a aucun lien, ben c'est comme ça. Et donc voilà qui était, en ce qui concerne le nom de Thomas. Donc ça c'est son nom. Deux. Son pessimiste patent. Pour ça il faut aller maintenant à Jean 11. Alors prenez vos Bibles et allons à Jean 11 et voyons ce pessimisme connu de Thomas. Alors, nous sommes à Béthanie. Béthanie, c'est un petit village pas loin de Jérusalem où vivaient Marthe, Marie et Lazare. Alors, Marthe, Marie et Lazare étaient des grands amis de Jésus. Ils allaient souvent, lorsqu'ils venaient à Jérusalem, ils passaient souvent la nuit là-bas. Donc, ils étaient très proches. Et voilà que Lazare, ce proche ami de Jésus, devient malade, très malade, au point où il va mourir. Et nous lisons à partir du verset 1 de Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Alors nous apprenons par ces versets que Lazare est très malade. C'est une maladie grave. Car ces deux sœurs, Marthe et Marie, voyant leur frère malade, sont très inquiètes au point où elles en font envoyer pour Jésus. Parce qu'elles pensaient que Jésus, puisqu'elles le connaissaient, elles savaient qu'il avait fait de multiples miracles déjà, savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir ce frère malade. Alors dans Jean 10, 40, on apprit que à ce moment-là, Jésus était au-delà du Jourdain. Donc c'est une certaine distance, probablement 10 heures de marche. Donc alors, les sœurs font envoyer, donc un messager va chercher Jésus et lui dit « Jésus, viens s'il te plaît, parce que Lazare est malade et Marthe et Marie t'appellent. » Alors regardez ce qui se passe au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée. » Alors écoutez, là il y a un truc vraiment bizarre. Si vous êtes proche ami de Marthe et Marie et de Lazare, on vous appelle pour vous dire « Écoute, Lazare est vraiment malade, il a besoin d'être guéri par toi, est-ce que tu peux vite venir ?»« Oui, d'accord, je viens dans 2 jours. » C'est quoi comme réponse ? C'est étrange. C'est étrange. Pourquoi attend-il 2 jours ? Eh bien, c'est drôle à dire, mais c'est pour que Lazare meure. Il voulait que Lazare meure. Verset 6, « Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Alors c'est intéressant. Il attend 2 jours, et il dit, « Voilà, maintenant on va y aller. » Et les disciples réagissent, mais Jésus, non, tu es fou d'aller en Judée. Tu sais très bien que tu es un homme pourchassé. Et si tu vas là-bas, on va te tuer. Alors verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Alors est-ce que ça veut dire qu'il dormait ou est-ce qu'il était mort ? Ben continuons. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alors ça c'est aussi intéressant. Ça veut dire que Jésus, puisqu'il est Dieu incarné, puisqu'il est souverain et puisqu'il est omniscient, il sait tout, il sait exactement à quel moment Lazare est mort. Et 2 jours plus tard, il dit, ah, Lazare est mort. Donc maintenant on peut y aller. Alors, on pouvait comprendre la perplexité des disciples ici. Et ils ne comprennent plus rien, quoi. Alors, verset 15. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis que je n'étais pas là-bas lorsqu'il était que malade. Je me réjouis du fait qu'il est vraiment mort. Maintenant, allons vers lui. » Alors, Thomas. Et voilà, c'est l'autre portrait. Thomas, verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Alors, c'est quand même intéressant, non ? « Ouais, écoutez les gars, allons-y et allons tous mourir avec lui. Voilà. Allons, on va mourir. » Est-ce que vous croyez qu'il était plutôt pessimiste ou optimiste ? D'accord ? Quel genre de personnalité est-ce qu'il avait ? Non, mais écoutez, c'était un pessimiste, c'est évident que c'était un pessimiste. « Ok les gars !» Thomas, comprends. J'ai compris, c'est clair. Nous allons aller en Judée, puisque Jésus veut y aller. Et là, je suis absolument certain que les Juifs trouveront Jésus. Ils nous trouveront donc les disciples. Ils vont nous capturer et ils vont nous tuer. Donc ça, c'est une évidence. on va tous mourir, alors allons-y. Et allons mourir avec lui. C'est vrai qu'il y a des optimistes dans la vie où tout est toujours positif. Il y a des pessimistes où on a l'impression que tout est toujours négatif. Là, on a quand même l'impression de faire partie ou d'être dans la présence d'un pessimiste. Mais c'est là où je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus avant trop vite de le juger. Troisième point, son amour intense. Son amour intense. Oui, pessimiste, mais regardez la différence intéressante entre lui et les autres disciples au verset 8. Les disciples, lui, avaient dit, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » C'est ce qu'ils sont en train de dire. Jésus, toi, vas-y pas. Vas-y pas, parce que si tu vas, tu vas mourir. Ça, c'est leur perspective. Crainte. Retrait. Attention. Thomas, il dit, allons-y et mourons avec lui. Alors, pourquoi est-ce que Thomas a une réaction tellement différente que les autres disciples? Pour certains, c'est, on n'y va pas. Lui, il y va. Mais oui, allons-y et mourons avec lui. C'est quand même étrange. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Thomas aimait tellement le Seigneur Jésus-Christ que pour lui, il valait mieux être mort avec Jésus que vivant sans Jésus. Lui ne pouvait pas imaginer ne pas être dans la présence de Jésus-Christ. Tellement aimait-il Jésus, tellement veut-il être proche de lui, qu'il préfère aller à Jérusalem avec lui et mourir avec lui que de rester, lui, de l'autre côté du Jourdain et être séparé de Jésus qui, lui, irait à Jérusalem pour mourir tout seul. Et je pense qu'ici, nous voyons le vrai cœur de Thomas. Un homme qui avait une tendance, oui, au pessimisme, certes, mais un homme qui avait un profond amour pour le Seigneur, qui voulait à tout prix être avec lui. Alors, la fin du récit ici, vous connaissez, je pense, verset 17, Jésus arrive finalement, donc tous les disciples vont avec lui, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Pour ceux qui doutent du décès réel de Lazare, 4 jours dans un sépulcre avec la chaleur du jour. Ouf. Et on sait tout à l'heure que le corps avait déjà commencé à décomposer. Il était vraiment mort, notre ami Lazare, d'accord? Vraiment mort. Donc, il est là, il arrive, 4 jours dans le sépulcre. Verset 21, Marthe vient en courant et dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et oui, il a raison. Il serait venu, il l'aurait guéri et il serait pas mort. Donc, c'est pas faux ce qu'il a dit. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'accorderas. Waouh ! Elle est en train de dire Jésus, mais je sais que toi, tu as un pouvoir. Et que Dieu va faire quelque chose. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, son frère mort encore dans le sépulcre, elle se tourne à Jésus, elle dit, oui Seigneur. Verset 27, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla. Voilà une confession de foi absolument majestueuse. Et ensuite, à sa sœur, verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds lui dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est vrai, mais elle ne sait pas ce que Jésus va faire maintenant. Alors Jésus, la voyant pleurer, verset 33, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit dans son esprit et fut tout ému. Et elle dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Pleura parce qu'il voyait l'effet terrible du péché, la mort. La mort, c'est l'effet du péché, en fait. Donc il pleure. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Mais tout le monde, ils ont compris. Mais écoute, s'il a fait tous ces miracles, s'il a déjà guéri les gens, est-ce qu'il n'aurait pas pu éviter que cet homme meure? Oui. Et vous avez rien vu, les gars, encore. Vous avez encore rien vu. Alors, verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Écoute, Seigneur, son corps est en décomposition. En termes d'aujourd'hui, on dirait « ça pue là-dedans ». C'est exactement ça. Jésus lui dit « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux d'en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et là, ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Waouh ! Ça, c'est un miracle, mes amis. Alors, revenons à Thomas. Vous rappelez la perspective de Thomas ? Je préfère être avec lui, mort, que séparé de lui, vivant. Un homme qui aimait profondément le Seigneur. Quatre. Sa perplexité compréhensible. Maintenant, dans Jean 14, donc on continue notre parcours, d'accord ? Jean 14. Alors Jésus donne un discours. Regardez ce qu'il dit. Verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare aussi une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il leur dit, écoutez, je vais vous quitter. Rappelez-vous de Thomas. Il a dit, je vais vous quitter. Je vais aller vous préparer une place dans le ciel et je reviendrai vous chercher. Si vous êtes Thomas, vous réagissez comment ? Non ! Je ne veux pas être sans toi. Je ne peux pas supporter l'idée d'être séparé de toi. S'il te plaît, non, ne pars pas. Est-ce que c'est la bonne réaction ? Est-ce que c'est la réaction de Thomas ? Ben regardez verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, il dit, mais écoute, tu es en train de dire que tu vas partir, mais où est-ce que tu vas partir et comment est-ce qu'on peut aller avec toi? Seigneur, je ne peux pas imaginer d'être séparé de toi. Tu nous dis que nous savons le chemin. Mais Seigneur, franchement, je ne sais pas comment faire pour te suivre. Et donc, il pensait à vraiment quelque chose de physique, on a l'impression. Alors, Jésus donne cette vérité fabuleuse que nous connaissons au verset 6. Jésus répond à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce que Thomas ne comprenait pas, c'était la perspective divine de la vérité qu'évoquait Jésus. L'endroit dont parlait Jésus était vers le Père. Le chemin du salut que lui offrait. Je suis, Jésus dit, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce qu'il est en train de dire, tout simplement, c'est qu'il n'allait pas laisser Thomas ni les autres orphelins, mais qu'il partirait, certes, mais il reviendrait un jour pour venir les chercher. Et là, de nouveau, on voit que Thomas n'arrive pas à supporter l'idée qu'il pourrait être séparé même un instant de Jésus, son sauveur. Donc il est perplexe. 5. Sa déprime évidente. Sa déprime évidente. Jean 20, maintenant on arrive à notre texte clé, d'accord ? Jean 20. Alors vous connaissez les événements, maintenant nous sommes à Jérusalem. On va pas lire tout ça, mais dans Jean chapitre 19, et verset 18, Jésus est crucifié. C'est là où il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, Jésus au milieu. Donc voilà, ils arrivent à Jérusalem. De nouveau, la pire chose imaginable vient d'arriver. Jésus est pris, il est capturé, il est jugé, il est fouetté, il est couronné d'une couronne d'épines et il est crucifié. Cloué à une croix avec deux brigands, l'un à gauche, l'un à droite. Il meurt. Jean chapitre 19, verset 42 nous dit qu'il est enterré. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et le premier jour de la semaine, il ressuscite. Jean 20:1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendirent au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, leur dit, « Ils ont enlevé le sépulcre du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. » Donc elle pense qu'il a été volé. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courèrent les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arrivait à leur premier à Jean. Donc apparemment, Jean courait plus vite que Pierre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Donc là, il voit que les bandes, cette coquille, les bandes et les aromates qui avaient entouré le corps de Jésus étaient là. Et c'est comme si le corps était ressuscité. Il s'était dissous. Il a ressuscité, en fait. Et il y avait ce cocon probable qui est encore là. Et ils ont vu ce cocon vide. Parce qu'il est dit, il arriva, entra dans le sépulcre, verset 6, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié d'un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Quelque chose, lorsqu'ils ont regardé dans ce tombeau et ils ont vu là les bandes, apparemment dans une forme de coquille, translucide. Ils ont réalisé, là il y a un miracle. Jésus est vraiment ressuscité. C'est vraiment vrai. Il nous l'a prédit à multiples fois. Et aujourd'hui, on le voit de nos propres yeux. Alors bien sûr, ils étaient encore perplexes, car il est dit au verset 8 qu'il a cru, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors maintenant, c'est intéressant. Jésus est ressuscité. Que se passe-t-il? Eh bien, il commence à apparaître à des gens. Hein, on l'a lu tout à l'heure dans Corinthiens 15, qu'il a apparu à plus de 500 personnes. Donc c'est pas rien. Et on n'a que quelques exemples concrets et précis dans le Nouveau Testament. Alors, regardez le verset 19. C'est vraiment, vraiment intéressant. Le soir de ce jour. Donc maintenant, c'est dimanche soir. Qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors, vous vous rappelez qu'ils avaient peur d'aller à Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que Jésus allait tuer et qu'eux aussi, ils allaient tuer. Thomas dit, allons-y, allons mourons. Les autres, ils disent, ouh, fais attention. Ils y vont. Et c'est exactement ce qui se passe. Jésus est capturé, Jésus est tué. Maintenant, les disciples, ils disent, aïe, 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 aïe. Maintenant, c'est à nous. Ils vont venir nous chercher. C'est nous les prochains. Alors, on comprend pourquoi... Au verset 19, ils étaient le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à clé. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, est-ce qu'ils vont croire que nous avons volé le corps? Ils ont peur, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Alors ils sont là, enfermés dans une pièce, porte à clé, en train de trembler, d'accord? Et là, regardez ce qu'il dit au verset 19. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alors, comment est-ce qu'il vint? Parce que le texte est très clair, la porte était fermée, qui implique que Jésus n'a pas ouvert la porte. Il a passé à travers les murs ou à travers la porte de la même manière qu'il est ressuscité des morts. Ça, c'est vraiment clair et net dans le texte. C'est ce qu'ils veulent qu'on comprenne ici, qu'il apparaît, clac! Et il leur dit, la paix soit avec vous. En langage commun, c'est, salut les gars. C'est à peu près ça. C'est ce qu'on disait habituellement. Shalom! Salut! Dans les textes parallèles, ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ont eu vraiment peur. Un premier. Verset 20, et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors bien sûr, ils voient Jésus apparaître, et là ils se disent, oh, je sais pas, j'arrive pas à réagir, comment ils auraient réagi, hein. Et il dit, écoutez, regardez. Là, il montre les trous qui étaient probablement là, sur les poignets, les gros trous. Et un trou sur le côté, on y reviendra dans deux secondes. Et quand il eut dit cela, verset 20, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je pense que ici, il leur souffle, le Saint-Esprit arrive dans Actes chapitre 2. Je pense qu'ici, il fait une sorte de prophétie par rapport à ce qui va se passer dans quelques jours, lorsqu'il remontera au Père et le Saint-Esprit sera envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Il dit qu'à partir de ce jour-là, de la venue du Saint-Esprit, on peut regarder le fruit d'une personne, écouter la confession, l'articulation de la confession d'une personne et reconnaître un chrétien. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce que ses péchés sont pardonnés ou non? C'est assez facile de déterminer cela. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, j'aimerais que vous notiez un détail important. Quelqu'un manquait ici. Quelqu'un était absent. Qui était absent? Eh bien, regardez au verset 24. Thomas, tarara, c'est notre ami, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Tiens. Tous les disciples sont dans cette pièce, Jésus apparaît, il leur montre qui il est, se révèle à eux, mais Thomas n'y est pas. Pourquoi pas? Pourquoi n'y est-il pas? Eh bien, le texte ne le dit pas avec précision, mais je crois qu'on peut maintenant essayer de comprendre la démarche et de ce qui se passe dans la tête de cet homme. Voyez-vous, Thomas est totalement bouleversé par les événements qu'il vient de témoigner. Imaginez que la chose dont il avait le plus peur venait de se réaliser. Lui avait été séparé d'avec le Seigneur. Il vient de voir son Seigneur cruellement crucifié. Il a vu son Seigneur mourir. Thomas est effondré, et c'était un pessimiste. Et on pouvait presque l'entendre dire, je savais que ça arriverait comme ça, je savais que ça allait être comme ça, mais c'était évident, je savais. Pour lui, c'était une évidence. Et en plus, il dit, je savais qu'il mourrait, et je savais que je ne mourrais pas avec lui. Il est parti sans moi. La pire des hypothèses imaginables venait d'arriver pour lui. Je suis maintenant seul, sans mon Seigneur et vivant. Il n'était même pas mort avec lui. Donc, il est en plus coupable. J'ai dit, mais je suis un nul dans tout ça, moi. Il est effondré, il est déprimé. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été déprimé. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai déjà eu des moments de déprime. Ben, quand vous êtes déprimé, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être avec des gens. Vous voulez tout seul dans votre coin. Hein? On va aller se cacher, on va aller dormir, éteindre toutes les lumières, même pas regarder la télé, on veut rien faire. On veut parler avec personne, on veut éteindre le téléphone, internet, on veut être tout seul et on veut être triste. Voilà, on a envie d'être triste. C'est ça la déprime. On veut s'isoler. Eh bien, Thomas, verset 24, Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 6. Sa requête célèbre. Ah, on arrive maintenant au cœur, regardez. Sa requête célèbre. Alors, heureusement qu'il a des amis. Ah, vous savez, écoutez, là, on voit l'importance d'avoir des amis. Parce que quand on déprime, quand on va mal, quand on s'éloigne, c'est là où il faut des amis. Écoute, on t'aime, viens. On veut être avec toi. Alors, ça peut être un irritant des amis, mais je pense que dans le fin fond du cœur de la personne déprimée, il est content d'avoir des amis. Ben voilà, lui, il a des amis. Les autres, d'ici, verset 25, lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Alors, qui veut dire que il n'était pas là lorsque le Seigneur a apparu, mais une fois qu'il a apparu, la première réflexe des disciples, c'est d'aller dire à Thomas, écoute, Thomas, on l'a vu. il est apparu. On a vu le Seigneur ressuscité. Thomas, il est ressuscité. On te le promet, c'est sûr, c'est certain, il est ressuscité. C'est ce qu'ils disent. Nous avons vu le Seigneur. Et voici sa requête célèbre. Verset 25. Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Alors, dans Jean 19, 34, vous rappelez que lorsque Jésus était crucifié, bien sûr, cloué, dans la crainte, verset 31, que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on l'enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il était prophétisé qu'aucun os serait brisé à Jésus. Et donc, il prend sa lance et on peut imaginer, c'est un soldat romain. Hein, c'était les crucifixions à la série. Il n'était pas là pour faire attention. Il voulait vraiment être sûr qu'il était mort. Et rac ! Et boum ! Il lui a coupé le flanc pour vraiment finir le crucifié quelque part. Mais verset 33, c'était des pros de la mort. Ils savaient qu'il était en fait déjà mort. Donc Jésus, imaginez, il avait des monstres trous dans les poignets, peut-être dans les pieds. Il avait une immense cicatrice ici où cette lance lui avait percé le côté. Alors il dit, écoute, si je ne vois ça, si je ne peux pas mettre mon doigt et ma main dans ses plaies, je ne croirai pas. Vous savez ce qu'il est en train de leur dire ? Vous êtes fous, les gars. Vous êtes absolument fous. Reconnaissez votre erreur. Vous pensez que Jésus est ressuscité ? C'est faux. C'est pas possible. Vous vous êtes trompés. Laissez-moi tranquille. Si vous voulez que je croie, qu'il vienne ici, qu'il me le prouve. Voilà ce qu'il est en train de dire. Tu sais, c'est pas facile de parler avec une personne déprimée. On va pas les convaincre en une minute. Ouais, ouais, écoute, viens. Ah ouais, super. C'est pas comme ça que ça marche d'habitude. Non, c'est difficile de convaincre quelqu'un d'une vérité qu'il ne veut pas croire. Les disciples essayent. Pour ça, on peut vraiment les féliciter. Mais la réaction initiale de Thomas n'est pas très positive. 7. La solitude désespérée. Alors écoutez, ça, c'est un détail. Des fois, il faut s'arrêter dans les détails. Donc alors, Thomas, il dit, je ne croirai pas à moins que je voie. Les disciples sont, ils savent pas trop comment réagir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Regardez le verset 26, les trois premiers mots. 8 jours après. 8 jours après. Combien de temps cette déprime de Thomas a-t-elle duré? 8 jours. C'est intéressant. On aurait pu imaginer que Jésus viendrait tout de suite. Ben non, il a attendu 8 jours. Pourquoi? J'en sais rien. Le texte ne nous le dit pas. Mais pendant 8 longues journées, Thomas était tout seul dans son coin en train de faire ce qu'il faisait, déprimé. C'est intriguant, je trouve. Je pense que ces 8 jours ont dû paraître une éternité. Thomas a dû lutter avec ses sentiments de déprime, avec ses sentiments de désespoir, avec ses sentiments de frustration, de culpabilité. 8 jours... C'est une éternité lorsqu'on est déprimé et sans réponse. 8. Ses amis compassionnés. Regardez, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Waouh ! Ça, c'est extraordinaire, je trouve. On ne sait pas comment tout ça s'est passé. Il y a eu 8 jours de déprime, mais les autres disciples n'ont pas abandonné leur ami. 8 jours plus tard. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais on voit qu'ils sont de nouveau dans la même pièce, apparemment, de nouveau ensemble, mais la grande différence, c'est que Thomas est avec eux. Donc, ils ont gagné leur ami, mais ils n'étaient pas encore convaincus, vous savez. Ils n'étaient pas encore convaincus. Peut-être qu'ils croyaient un peu, hein, on ne sait pas, là c'est de la conjecture. Peut-être que le récit de conviction des autres disciples l'ont convaincu, au moins l'amitié a fait qu'il est revenu, d'accord? Et alors là, le truc auquel Thomas ne s'attend vraiment pas arrive. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Et maintenant, point 9, son privilège étonnant. Regardez, Jésus vint. Les portes étant fermées. Intéressant, de nouveau ce petit détail. Écoutez, rappelez-vous, les portes sont fermées, ils sont protégés, ils ont peur. Jésus vint. On ne nous dit pas comment. Il a traversé les murs, traversé la porte. Bref, il est apparu en tant que ressuscité. Et il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Salut les gars, shalom. C'est amusant, non? Vous ne trouvez pas? C'est amusant. Ah, écoutez, je pense que Thomas devait avoir les yeux comme ça gros. Peut-être il pensait, mais c'est une hallucination là, ce que je suis en train de rêver. Il y a un truc là, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors regardez, Thomas apparemment est bouche bée. Il ne peut plus rien dire. Il est paralysé dans le moment parce que c'est même pas lui qui parle. Regardez, c'est un petit détail intéressant. Qui parle le premier ici? Verset 27. Puis il dit à Thomas, c'est Jésus qui parle. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que Jésus savait exactement ce dont Thomas avait besoin. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Comment est-ce que Jésus savait que c'est ce que Thomas voulait faire? Eh bien, parce que Jésus est omniscient. Il sait tout de tout le monde. Il sait tout de toi, il sait tout de moi, il sait tout de Thomas, il sait tout de tout. Car Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Il peut regarder dans ton cœur et voir les choses les plus étonnantes dans ta vie. Et il savait exactement quel était le point qu'il fallait évoquer pour Thomas. Alors il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors, c'est intéressant. Bien que notre tableau montre que Thomas met son doigt dans le côté de Jésus, le texte en fait ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Le texte dit tout simplement que Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Alors est-ce que Thomas l'a fait ou est-ce que peut-être il était convaincu sans devoir le faire? On ne sait pas. On ne sait pas. Honnêtement, vous voulez mon opinion? Si ça avait été moi j'aurais voulu mettre mon doigt. Je sais pas, il y a quelque chose d'intrigant par ce geste. Et c'est intéressant, hein. En fait, le tableau montre le doigt, mais ici, qu'est-ce qu'il dit? La main. Mets ta main dans ma plaie. Donc, on a l'impression que la plaie était assez grande pour toute une main. C'est petit détail. Et ceci mène au dixième et dernier point, sa déclaration majestueuse. Et là, mes amis, c'est un verset souligné dans ma Bible, avec deux étoiles et une coche. Verset 28, Thomas lui répondit. Thomas répond à qui? À Jésus. Et lui dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas déclare ouvertement, avec sa bouche, Jésus, tu es non seulement mon Seigneur, tu es devenu le maître de ma vie maintenant, mais tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Oui, La Bible dit que Jésus est Dieu, que Jésus est Dieu incarné. Dieu fait homme. Qui d'autre peut ressusciter les morts si ce n'est Dieu? Alors comment conclure, mes amis? Comment conclure? Laissez-moi donner quelques conclusions avant de passer à la Sainte Cène, d'accord? C'est intéressant qu'il ne faut pas trop vite blâmer Thomas pour ne pas avoir cru sans voir, sans toucher. Vous savez que les autres disciples n'ont pas vraiment cru avant d'avoir vu Jésus ressuscité apparu dans la pièce non plus. Hein? Le premier incident où Jésus est arrivé, c'est à ce moment-là où ils ont vraiment été convaincus de la résurrection. Thomas, c'était deuxième phase, d'accord? Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, c'est deux ou trois ou quatre fois qu'il faut apporter la vérité pour qu'ils la comprennent. Donc soyons patients avec les gens. Soyons patients avec les gens lorsque nous leur parlons du Seigneur Jésus-Christ. Alors, question, faut-il voir pour croire? Non. Regardez le verset 29. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. De voir Jésus ressuscité, de pouvoir mettre son doigt ou sa main dans ses plaies, c'est un immense privilège, oui. Mais est-ce que c'est nécessaire pour être un chrétien? Pour pouvoir croire que Jésus est Seigneur et Dieu? Non. Non, ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est intéressant parce que Romains 10, 9 et 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais moi, j'ai jamais vu. C'est pas grave. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ est plausible? Si tu comprends le christianisme, tu vois que la résurrection est capitale. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la seule manière de vaincre la mort et le péché, c'est par une résurrection. Donc il fallait que l'agneau de Dieu ressuscite. Il fallait qu'il y ait une résurrection pour vaincre la mort et le péché. C'est logique, c'est nécessaire. Et si tu penses que cela est logique, si tu penses que cela est nécessaire, tu crois dans la résurrection. Et donc c'est possible que tu puisses vraiment croire que Jésus ressuscité des morts. Tu diras, ouais, mais John, je ne sais pas. Alors, c'était comme moi. Quand j'étais en Inde, on m'a dit ça. C'était le 4 novembre 1976. Et là, on m'introduisait avec l'évangile, on disait, Jésus ressuscité des morts. J'ai dit, écoute, j'ai jamais vu, c'est pas grave. S'il est ressuscité des morts, s'il est Seigneur, s'il est Sauveur, s'il est Dieu, et tu l'invites à venir dans ton cœur et pardonner tes péchés, et à te donner la vie éternelle, si c'est vrai, attention, parce qu'alors là, ça va dégager dans ta vie. S'il est vraiment ressuscité, la transformation va être totale. Si c'est faux, rien n'arrivera. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit, le gars. J'ai dit, bah, écoute, c'est pas faux. Si vraiment il est ressuscité, donne-lui ta vie et tu verras ce qu'il va faire. Il va transformer ta vie, il va prendre ton péché, le pardonner, il va l'éliminer, il va t'infuser de sainteté et ta vie va commencer à transformer. À se transformer devant tes yeux. Et quel est le but de tout ça? Ça, je n'ai jamais vu jusqu'à cette fois-ci. Regardez les deux prochains derniers versets. Quel est le but de tout ça, justement? Pour nous appeler à croire en lui pour être sauvés. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mon ami, si tu connais pas Christ ce matin, je ne peux que te dire ce que la parole de Dieu dit. Viens à Christ, crois en lui, donne-lui ton péché, confie-lui ta vie. Et il va venir. Et il va te donner la vie éternelle. C'est ce qu'il dit. C'est absolument époustouflant. Le Sauveur que nous avons. Et toi, tu en es où alors aujourd'hui? Nous aimerions célébrer la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est un moment que le Seigneur nous a demandé de célébrer de manière régulière pour commémorer justement sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. C'est ce que Jésus a dit lui-même dans Matthieu 26. juste avant sa crucifixion, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez, la résurrection, elle est partout. Comment est-ce qu'il peut dire je boirai un jour de nouveau cela avec vous dans le royaume s'il n'est pas ressuscité? Ça implique qu'il est ressuscité dans le royaume. Et nous aussi, on sera ressuscité pour être dans le royaume avec lui, mes amis. Donc là, c'est l'heure d'œuvre. C'est l'heure d'œuvre par rapport à la fête céleste qui nous attend. Donc, si tu connais Christ, si tu peux, comme Thomas aujourd'hui, affirmer « Mon Seigneur et mon Dieu », si ça c'est vraiment ta confession par rapport à Christ, tu es invité à prendre le pain, à boire la coupe et te rappeler de manière tangible au sacrifice de Christ à toi, pour toi. Mais si tu as un doute, si tu ne peux pas avec Thomas dire aujourd'hui « Mon Seigneur et mon Dieu », si ce n'est pas encore toi ça, laisse passer les éléments. Ce serait boire un jugement contre toi, nous dit la Bible. Laisse passer. Contemple. Contemple Jésus-Christ avec Thomas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais lui demander de te pardonner pour ton péché.